et vous écoutez France Culture. Avant de rejoindre la crête, nous avions été accueillis par l'odeur âcre du sang répandu, les traces douces amères de vomi et une odeur musquée et indéfinissable comme celle d'un abattoir. Pire encore étaient ces formes qui s'agitaient dans la brume. Simon Revelstroke, Richard Corben. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre à Angoulême ce samedi soir et ce à l'occasion de la 46e édition du Festival international de la bande dessinée, édition qui met cette année à l'honneur, entre autres figures, Futuropolis et le Grand Prix 2018. Richard Corben, deux expositions leur sont consacrées. Visite micro en main ce soir dans Mauvais genre. Bonjour Antoine Guillot. Alors, quelques renseignements généraux sur cette édition 46e du nom du Festival international de la BD d'Angoulême. Batman, Matsumoto, Manara, et puis surtout pour nous, Corben et Futuropolis.
Voilà, mais nous sommes un peu comme cet enfant qu'on voit sur l'affiche du festival, lisant les yeux effarés, à la fois excités et très effrayés, Tales of the Crypt, ce gamin, c'est Richard Corben qui s'est représenté lui-même dans ses lectures d'origine. Et nous allons retourner dans ces expositions à nos lectures d'origine, puisque retour aux années 70. Les années 70, c'est la naissance de Futuropolis, là où vont incuber tous les auteurs qui vont faire la bande dessinée telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'invention de la bande dessinée d'auteur. C'est la grande geste d'Étienne Robial et de Florence Sestac. Donc Étienne Robial va nous faire visiter cette exposition formidable au musée de la bande dessinée d'Angoulême. Et puis dans un autre musée, le musée des Beaux-Arts d'Angoulême, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Richard Corben. Donc Richard Corben, celui dont on a découvert Den dans les années 70, Monde Mutant et autres bandes dessinées de dinosaures dans les années 80, celui qui dans les années 90-2000 va faire de la bande dessinée de super-héros, Hellboy en particulier, Hellblazer, Hulk et d'autres, et puis qui nous est revenu récemment, grâce à notre ami de chez Delirium, a fait revivre l'œuvre du Richard Corben actuel, celui qui a un dessin passionnant, direct, tellurique, pour nous revenir à ses amours d'enfance et les nôtres, celles d'Edgar Allan Poe et de Lovecraft. Donc c'est ça que nous allons découvrir ici. Rappelons que s'il y a une exposition Corben, c'est parce qu'il a été Grand Prix de la ville d'Angoulême l'an dernier.
Cette année, le Grand Prix, on le sait, c'est Rumiko Takahashi, la mangaka japonaise. On écoute Stéphane Beaujean, donc directeur artistique du festival, nous présenter ce Grand Prix 2019.
Je suis très heureux pour plein de raisons. Déjà parce que je fais partie de la génération des primo-lecteurs de manga qui ont grandi avec Rumiko Takahashi, qui ont découvert cette culture de bande dessinée avec elle, Toriyama également. J'ai une profonde affection pour Takahashi parce que ce qui la distinguait déjà à l'époque, et qu'on n'était pas capable de comprendre parce que bien trop jeune, c'est qu'elle parlait des travers de la société, du clou qui dépasse, mais elle le faisait avec une tendresse et en cachant ça derrière beaucoup de pop culture, de sucre et de couleurs, que quand on voyait ces personnages alcooliques déambuler à moitié nus dans des pensions pauvres, ou qu'on voyait ces veuves se débattre pour essayer de refaire leur vie, ou ces pauvres enseignants incapables de se marier par manque d'argent, on n'en voyait pas la dimension sociale et politique et la critique du monde contemporain dans lequel évoluait l'auteur. Et que revenir à elle plus vieux, avec ses souvenirs d'enfant et en même temps, la distance qui permet aujourd'hui de comprendre de quoi elle nous parlait réellement, ça me fait vraiment plaisir.
Merci Stéphane Beaujean. Et maintenant, en attendant de s'enfoncer dans l'univers de Futuropolis, nous allons retrouver Céline Duchesnay. Et de quoi s'agit-il ce soir, ma chère Céline ?
Il s'agit, mon cher François, de Nathalie Mondeau.
Cette œuvre-là, juste là, c'est un assemblage qui est composé de différents bois qui viennent du bois de Vincennes, en fait, que j'ai recueilli lors de mes promenades. On va trouver des racines, on va trouver des branches, on va trouver du lierre également, et on va trouver tout un assemblage composé de fleurs séchées qui viennent de différents endroits de France. On va trouver des plumes, essentiellement des plumes de corbeau, qui est un peu mon animal totem. On va trouver également des pierres, qui sont des pierres de soins, qui sont des pierres qu'on m'a offertes, des pierres que je me suis procurées moi-même ou que j'ai ramassées également au cours de mes balades. En fait, c'est un hôtel, tout simplement, et je fais beaucoup de méditation. Et voilà, en fait, c'est mon hôtel pour méditer. C'est une façon, j'habite en pleine ville aujourd'hui, et du coup, c'est aussi une façon de me relier au végétal. Tout en étant chez moi.
Nathalie Mondeau porte en elle plusieurs mondes qui résonnent et s'entremêlent, elle qui est à la fois artiste plasticienne et ethnobotaniste. Des univers qu'elle aborde par des chemins de traverse ou de lisière au gré de ses échappées et de ses pérégrinations. Si quelques-uns ont pu la considérer comme une sorcière, c'est de manière valorisante car Nathalie Mondeau connaît le secret des plantes, la fabrication des onguents qui soignent et apaisent. Elle organise ainsi des promenades en forêt, des ateliers pour transmettre son savoir. À côté de ses recherches en ethnobotanique, Nathalie Mondeau développe depuis quelques années un travail personnel qui porte sur la sexualité et l'identité, à travers différents types de supports, des performances, des photographies, des vidéos ou des sculptures. Elle a pu s'interroger sur le manque de visibilité de l'homosexualité dans la société ou sur la place des femmes. Puis, elle s'est naturellement intéressée aux questions de genre et a décidé de mettre en scène son corps en questionnant son propre genre.
Petite fille, déjà, qualifiée de garçon manqué. On ne savait pas trop si c'était jeune homme, jeune fille, c'était assez flou et moi je n'avais pas de revendication quelconque d'appartenir à tel ou tel genre. Et puis, à travers un travail photo et d'autoportrait, donc, j'ai voulu interroger cette question-là de ben, moi en garçon, ça donnerait quoi ? Donc, du coup, j'ai commencé un peu à regarder dans au cinéma, à la télévision, donc dans les publicités, quelles étaient les attitudes dites masculines, et à les adopter, un peu comme lorsqu'on apprend un rôle au théâtre ou au cinéma, de la même façon. Donc tout ce travail-là, avant, ensuite d'adopter les attitudes dites masculines, et ensuite ben, d'avoir un maquillage adéquat de façon à ressembler vraiment à un homme. Donc du coup, le moi homme est né à ce moment-là, et j'ai fait toute une série photo. Et entre le moment où j'ai fait les photos et le moment où j'ai pu travailler sur les photos, il s'est passé plus de 6 mois. En fait, je ne me reconnaissais pas, mais en même temps, je me reconnaissais. Il y avait vraiment un travail sur ma propre image qui m'a beaucoup bouleversée à ce moment-là. Et après, du coup, est venue l'idée de, ben, d'accord, j'ai fait la partie homme, maintenant, il faudrait que je fasse la partie femme. Ça n'a pas été évident non plus pour moi de créer en fait cette image féminine selon les critères féminins de notre société. J'ai utilisé la même technique, donc je me suis renseignée, j'ai regardé par rapport aux images cinématographiques, aux publicités. J'ai appris les rôles aussi, comment marcher, comment se tenir, se comporter. J'ai fait toute cette série de photos également avec le maquillage adéquat et les postures qu'on peut retrouver au cinéma dans la vie de tous les jours. Et entre deux, on va trouver ce qu'on peut qualifier de gender fluide, le genre fluide, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est homme ou femme, et donc il y a plus d'une quarantaine de photos en tout, où on passe tout le spectre, en fait, au travers de ma propre image, de l'homme, selon les critères de notre société, jusqu'à la femme avec les critères de notre société. Ça m'a permis d'être moi. Et de m'assumer comme cet être gender fluid, justement, et où on va m'appeler madame ou monsieur, ou la même personne, je rentre dans le magasin, m'appelle monsieur, en sortant, m'appelle madame, je dirais ça m'a permis de ne plus être perturbée par ça. C'est-à-dire de ne pas avoir besoin d'être identifiée absolument à un genre. Et de moi, je sais qui je suis, et après, c'est vrai que dans les magasins, par exemple, des fois, on me dit « bonjour monsieur » ou « bonjour madame », puis « ah, oh, pardon, excusez-moi, ah ben... » Et moi, je regarde la personne en me disant « c'est comme vous voulez. » Moi, je m'en fous, je sais qui je suis, enfin voilà, moi, je suis Nathalie, voilà.
Pour découvrir le monde de Nathalie Mondeau, deux adresses internet www.nathalie-mondeau.com et www.forêtmedecine.com, site qui est spécifiquement consacré aux promenades et ateliers que Nathalie Mondeau organise autour des plantes. Demain, par exemple, elle propose une balade ethno-botanique au bois de Vincennes autour des plantes bienfaisantes à récolter en plein hiver. Dimanche 3 février, une promenade autour des racines et des bourgeons pour garder la forme. Et le 16 février, un atelier co-animé avec Minsungi intitulé « Les plantes qui soignent ta chatte ». Oui, car certaines plantes prennent particulièrement soin des sexes féminins. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Nathalie Mondeau, Forêt Médecine, et sur les réseaux sociaux.
Merci Céline. Et bien maintenant, l'heure est venue, Antoine Guillot et moi, de nous précipiter dans l'univers de Futuropolis en compagnie d'Étienne Robial. Et puis ensuite, nous vous ferons découvrir celui de Richard Corben. Étienne Robial, je lis, je cite, « Le noyau dur de Futuropolis, période passage des écoliers, était constitué ». Alors, est-ce qu'on peut aligner toutes ces riches personnalités, donner des noms
Il y a Foufougne, dont on parlera tout à l'heure, hein, qui conduit un superbe Camino C50 Honda. Jean-Luc Cochet, directeur de collection. Eve Crombel, une secrétaire. Joss, qui s'occupait de la réception et du standard téléphonique, parce qu'il y a une époque où il y avait beau. Sylvain, qui s'occupait du service expédition. Nos deux amis Strobel et Dominique Dupuis, qui étaient notre force de vente, voilà. Qui ont quand même établi le premier réseau des librairies spécialisées en France, hein, puisque l'idée, c'était de réunir nos forces pour aller chez les distributeurs ou les éditeurs en groupant nos commandes pour obtenir des remises conséquentes. Florence, et puis ma pomme un peu plus allégée et encore fumeur à gauche. Voilà,
oui, ça fume. Tout le monde ne fume pas, mais...
Oui, ça fume, et puis ça, oui, il n'y a pas que la fumée.
Alors chacun a évidemment un scénario propre pour arriver à Futuropolis.
En gros, c'est toujours des potes, c'est toujours un groupe, c'est toujours une bande, hein. Donc c'est toujours...
Alors Étienne Robial, Futuropolis, c'est d'abord un mot, un nom, on peut donner quelques précisions?
Futuropolis, d'abord, c'est la bande dessinée de Pelos, hein. Pelos, c'est avant-guerre, c'est 37, 30, jusqu'à 39, Futuropolis, une bande dessinée de science-fiction, comme on disait à l'époque. Qui est édité dans Junior. C'est un nom auquel on est attaché, dont on était très fiers. Futuropolis, c'est d'abord une librairie, hein, c'est une opportunité. Moi, je suis graphiste, et puis cette opportunité de faire rentrer de l'argent frais avec cette arrière-pensée d'éditer. Hein, quoi, on ne sait pas trop. En revanche, il y a un noyau art déco... Véron, Tardy et tout ça, Florence, Cogit, tout ça. Et l'arrière-pensée, c'est d'éditer. Éditer, on n'a pas de thunes. Donc c'est vraiment la librairie, l'endroit public. Et cet endroit public, il est ouvert à tout le monde. Et c'est là que se réunissent... on est dans le 15e, rue du Théâtre, c'est un peu le trou du cul de Paris. Mais bon, les gens font quand même le déplacement... Et on retrouve des allumés, des illustrés à l'époque. Hein. On ne dit pas bande dessinée, surtout pas BD. Hein. Nous, la BD, c'est la merde qui édite les autres. Hein. Donc on est quand même des caractériels. On est tous plus ou moins Troscar. Moi, j'ai eu mes petites aventures avant, mais on veut être en marge, on veut marquer notre différence. On est aux antipodes de ce que pouvait commencer à éditer Glénat ou des gens comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est l'auteur. Et d'où cette idée de montrer des dessins à la taille des originaux, ce qui sera fait avec la véritable histoire du soldat inconnu. Donc, dans cette librairie, c'est un lieu de rencontre. Les horaires sont très souples. Ça finit des fois très tard ou très tôt le matin, où on refait le monde dans l'arrière-boutique, qui est censée être une galerie quand il n'y a pas trop de bordel. Mais c'est dans cet endroit, quand même, qu'on va découper des pages de pif pour montrer ce mec qui s'appelle Hugo Pratt et qui n'est pas édité, qu'on ne connaît pas. Et puis Calvo et tout ce qu'on va réunir. Mais tout ça se fait ici. Il y a des jeunes dessinateurs qui ne sont pas encore confirmés, qui viennent chercher un petit peu d'inspiration. Tout simplement, ils sont curieux et ils cherchent... Ils cherchent à voir, ils cherchent à comprendre et surtout, on leur montre des choses qu'on ne trouve pas à l'épicerie chez le libraire du bout de la rue. Quoi.
La librairie, on y est dans l'entrée de cette exposition, c'est-à-dire qu'on peut voir certains des ouvrages que vous vendiez à l'époque. Si on regarde dans les vitrines, on voit frimousser dans sa maison. D'un côté, on voit un album relié de la revue Bravo, il y a du Hugo Pratt, et puis aussi la revue Phoenix, revue qui avait été lancée dans la librairie de Jean Boulet, hein, si je me souviens bien. Alors, qui étaient vos clients? Parce qu'il faut faire une typologie du collectionneur maniaque de bande dessinée. Qu'est-ce que vous leur offriez qu'ils ne trouvaient pas ailleurs? Et est-ce qu'il y avait un effet comme ça, Madeleine mortifère pour certains d'entre eux?
Bah, il y a toute cette population de collectionneurs. Là, on est en plein dans la pathologie. Les collectionneurs, les malades, les patients, disons, nous écartent les bras en croix en disant c'était un grand journal, grand comme ça, et on leur montre un petit journal qui est petit comme ça, et ils me disent non, non, c'était grand comme ça. Il y a des psychiatres après qui nous expliquaient que l'enfant étant petit, il tendait ses bras en croix, et grande déception. Ces gens, en 72, d'avant-guerre, qui lisaient les illustrés, et qui ont été élevés avec ça. Il y a même un phénomène formidable. En juin 40, les Allemands sont aux portes de Paris, et l'imprimerie Lang ne peut pas livrer le dernier numéro de Robinson ou de Mickey. Et les collectionneurs, enfin les amateurs de l'époque, pendant toute la durée de la guerre, ils ont continué leur histoire. Et ils disent oui, puis après il s'est marié. Ah non, il ne s'est pas marié du tout. Il n'est pas allé avec ceci, il n'est pas tombé en avion. Donc tous ces gens-là, on retrouve leur enfance, etc. On est aussi en marge dans la librairie. Il y a un panneau auquel je suis très attaché. Qui est ce Tintin barré avec marqué « Not made in Belgium ». Alors ici, nos amis belges vous regardent ça d'un sale œil, mais on est anti-franco-belge. Ce qui nous intéresse, c'est le festival de Loup, qui est l'ancêtre d'Angoulême, où on découvre Breccia, Crépax, qui fait Histoire d'eau, Valentina, Buzzelli et tous ces auteurs italiens qu'on a envie de montrer, qu'on ne connaît pas en France, que personne ne traduit. À part Volin, quand même, Volinsky, dans Charlie, qui fait Charlie, qui est une... Charlie Mensuel, bien entendu, édité au Square par Choron, qui est une copie de Linus, qui était fait à Milan. Mais Volin, ce qui fait quand même découvrir aussi beaucoup de choses. Mais en librairie, on ne trouve rien, et nous, on va commencer à chercher, à retrouver tout ça pour présenter tout ce qui se fait à travers la planète, aussi bien des petits fascicules que le consulat de Chine nous vend 50 centimes avec le roi des singes, qui sont quand même les premiers, ce qu'on appelle graphic novel aujourd'hui, où on va montrer ces petites choses-là qu'on vend 2 balles, mais les comics américains de la côte est, mais surtout ceux de la côte ouest, qui sont faits à Berkeley par Crumb, Clay Wilson et tout ce mouvement de grande, qu'on voit, commence à voir, bien sûr, grâce à Bizot dans Actuel. Et là, c'est vrai que tout ce petit circuit se retrouve et se joint. Et cette librairie est ouverte. Et on a donc tous ces amateurs fous de bandes dessinées naissantes, un peu marginales, qui arrivent.
Et comment est-ce qu'on importe des comics un peu licencieux, enfin, ce qui se publie sur la côte ouest n'est pas franchement présentable à la mère de famille qui vient pour élever ses bambins dans la France pompidolienne et bientôt giscardienne.
On va se débrouiller. On va commencer par faire du troc. Donc on verra un petit peu comment on va installer nos réseaux de l'époque, la création des librairies spécialisées. On va faire du troc, c'est-à-dire on va aller chez Dargo, chercher des bouquins, bizarres pour eux, mais qui sont par exemple Druyer, donc on voudrait acheter des Druyer. Mais vous êtes libraire, mais vous n'êtes pas vraiment libraire, on va vous inscrire aux offices. Non, on ne veut pas d'office, on veut choisir nos titres. Et nos héros vraiment de l'époque, c'est Fred, le Fred du petit cirque, même pas le Fred de Philémon. Enfin, on en prend un petit peu, mais enfin, c'est vraiment le petit cirque. Cabu ou le Gottlieb dérangeant. Il y a quand même ce grand monsieur qui s'appelle Goscinny, mais dans le cadre de son journal, il fait chier tout le monde. Il est gentiment réac, ce qui va créer très vite l'écho des savanes. Et l'écho des savanes, dont on n'est pas responsable, en revanche, on va faire l'agrafage, les agrafes, une piqûre à cheval de l'écho des savanes, se fait bien sûr dans l'arrière-boutique de Canal+, avec une agrafeuse à pied. Et voilà, il y a de l'argent quand même, mais ce qu'on appelle, on est broc, on chine, etc. Donc on appelle ça de la fraîche, on paye cash, la TVA, tout ça, on ne sait pas ce que c'est. Faut fabriquer les bouquins. Moi, je sais un petit peu comment ça se passe. Donc, il y a une table lumineuse, il y a un banc de repos. Et là, on va commencer à clicher nos planches ou nos vieux illustrés pour en sortir des films au trait. Alors, film au trait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un passage. Un passage, c'est évidemment le noir. le noir, pas n'importe quel noir, on a une palette de noir, c'est-à-dire de noir plus ou moins pigmenté, de façon à apporter un noir chaud, un noir froid, un trait sec ou un trait plus ou moins gras. Évidemment, il y a des pétouilles, ça se retouche, et c'est autour de cette table lumineuse que les auteurs eux-mêmes vont venir retoucher avec de la gouache, ça s'appelle de l'abdec, et puis avec une plume vaccinostyle, on va venir gratter des petites pétouilles blanches dans les surfaces blanches. Là, il y a des photos où on voit Fumieux en train de gratter ses propres films, toute la photographie simili, et toujours cette notion du trait, hein, de l'impression directe et non pas pixelisée comme ça peut se faire aujourd'hui. Et ça, on retrouve ces techniques aujourd'hui avec la rhizographie, c'est-à-dire le ton direct, c'est-à-dire le mélange de l'encre choisie, avec une couleur choisie, non recomposée, sur du papier. Et sa réaction sur son support papier va donner toutes ces matières, tous ces petits plaisirs de superposition.
Ici, au milieu, non seulement de ces cartons, mais aussi des collections, de la présentation des collections de Futuropolis. Et certaines sont légendaires. La collection 30-40, donc vous l'avez dit, c'est très grand format. 30-40, ça veut dire 30 cm sur 40 cm. C'est une première, le nom de l'auteur qui est marqué. C'est-à-dire, il n'y a pas de héros. Ce qu'on voit, c'est Calvo, Gire, Tardy, Baudet ou Jones. Il y a la collection Copyright qui va reprendre des strips de l'âge d'or de la bande dessinée américaine. Alors, la question qu'on se pose, parce que vous avez posé votre marque sur la bande dessinée d'auteurs des années 70-80 jusqu'aux années 90 et ceux qui vous ont succédé ensuite comme l'association notamment, hein, héritier évident de Futuropolis, qu'est-ce qui fait un auteur Futuropolis ? Quand un jeune homme vient vous voir un carton sous le bras, recommandé ou pas dans votre arrière-boutique, qu'est-ce qui fait que vous allez le publier ou pas ? Et est-ce que vous avez surtout le plaisir de fabriquer le livre, hein, ou est-ce que vous accomplissez un travail d'éditeur qui consisterait à accompagner l'auteur dans sa création ?
La chose est très simple, en fait, c'est l'auteur. Alors, là, on dit auteur, mais à l'époque, c'est pas un auteur, c'est un dessinateur. C'est un mec qui gribouille des planches, des feuilles de papier avec des pinceaux, avec des crayons, avec des stylos à billes, avec ce qu'il veut, ou qui commence à raconter des histoires. Et il a avec lui non seulement ses dessins, mais cette envie de montrer. Alors à Futuropolis, nous, on sait faire les livres, on sait les imprimer, on sait les mettre en page. Je me garde le plaisir de faire les couvertures parce que je considère que c'est mon boulot, que c'est pas le boulot du mec qui raconte des histoires. Et surtout, on va l'aider à ce que sa chose paraisse, existe. C'est là notre seule préoccupation. Jamais sur les 500 bouquins que j'ai édités, je suis intervenu, ou même pour être tout à fait franc, il y en a que j'ai même pas lu. Je suis pas lecteur de bande dessinée. En revanche, ce qui m'intéresse, ça va être son trait, ça va être sa façon aussi dont il peut raconter. Mais jamais j'ai fait un travail d'éditeur de dire tu devrais retravailler le début ou la fin, c'est pas assez ceci, soit pas assez cela. On se fout de la contexture du bouquin, c'est-à-dire de son nombre de pages. Il doit toujours être un multiple de 16 pages. Dans la bande traditionnelle, il y a 48 pages, 3 fois 16. Moins la page de titre, ça fait 44 planches. Et les pages de dépôt légal. Nous, si son histoire, elle fait 83 planches, on va se démerder pour que ça rentre et constituer une... Et c'est notre seul but. À tel point qu'on va le faire collaborer, on va le faire travailler. Il va faire ses choix. Il va même pouvoir retravailler ses trames de couleurs avec du bendé, parce qu'on est toujours en ton direct. Hein. C'est un truc important. C'est que du ton direct. Il n'y a pas de quadri, il n'y a pas de sélection. Il y a encore moins d'ordinateurs. Le Mac n'arrive qu'en 84. Donc c'est vraiment un truc qu'on fait avec notre pin et notre couteau pour que le bouquin existe. Donc il n'y a pas de politique éditoriale, il y a simplement des structures d'accueil qui sont ces collections, alors, qui sont encore une fois des livres. C'est pour ça que je ne prononce jamais ce mot d'album, qui est une structure albumine blanc, hein, c'est le truc où on met on colle les images, les timbres et les... Nous, au contraire, on va construire avec du papier et de l'encre le support de l'histoire qui va raconter. Donc après, il y a des structures d'accueil qui sont ce qu'on appelle malgré tout des collections, donc selon les formats, selon les dimensions, ou la collection Copyright qui reprend tous les grands classiques américains. Alors, il y a un appareil critique au début, hein. C'est pas les histoires de Popeye, machin, qui nous intéressent, bien que ça nous amuse beaucoup, tout particulièrement Florence. Mais ça va être Monsieur Seyard dans l'entre-deux-guerres, la façon dont il va pouvoir raconter ses histoires. Ou de Brigginop Fazer, la famille Illico, c'est le crack de 33, etc. Et de voir comment les gamins étaient préparés, c'est tout ça. Et puis nos préfaciers, c'est des cinéastes, c'est Alain René, c'est les Lacassins, c'est Bob Swem, qui sont des clients toujours de la librairie qui viennent boire des coups, et puis qui sont des passionnés, ils vont raconter sur une dizaine de pages, dans les introductions de ces livres, la façon dont ils ont fait la connaissance de ce personnage, et ainsi de suite. Très vite, il y a des collections de jeunes auteurs, entre guillemets, c'est-à-dire tout ça va ramener une population de jeunes qui ont 15, 17, 18 ans et qui viennent aussi avec leurs dessins sous le bras.
Il faut donner leur nom. Ce sont des Jean-Claude Denis, Jean-Claude Baudouin.
Baudouin. Et la collection qui va les accueillir va être la collection X. Alors X, pas comme on peut l'imaginer pornographique, mais plutôt c'est une petite structure. Hein, donc on fait ici un numéro zéro pour d'abord voir comment on va pouvoir accueillir des petites productions. Et là, on est soutenu par des Willem, Stanislas ou Slocombe ou Loustal qui va venir faire ces petites histoires, ces trucs qui sont vite faits, qui plient en une semaine et qui vont venir nous apporter des trucs inattendus, désorganisés, encore une fois avec des contextures complètement différentes. Et c'est ces auteurs qui après vont se regrouper, on va le voir, pour créer après l'association. On travaille aussi avec François Yérif sur toute la littérature un petit peu policière, qui est les nouvelles. Hein. Nouvelles, c'est Futuropolis ICE, collection nouvelle sans S. Ce que j'ai toujours, ça m'a toujours agacé d'acheter, j'aime bien le format de la nouvelle, mais de s'acheter des recueils de nouvelles. Il y en a deux géniales, trois pas trop mal et on s'en bouffe. Là, la collection format, petit format comme ça, la même contexture 48 pages, va pouvoir accueillir des petits chefs-d'œuvre des grands de la littérature policière jusqu'à des petites nouvelles radiophoniques d'Orson Welles qui font six feuillets. Avec ça, on va en faire un petit bouquin de la collection avec un corps assez gros et surtout illustré par nos dessinateurs pour retrouver nos 48 pages de structure, de contexture de bouquin.
Étienne Robial, on est dans ce qu'on pourrait appeler la salle des bustes, où sont, présentés à la fois en photo, avec des originaux et puis une biographie, tous les figures qui ont marqué l'histoire de Futuropolis. Alors, est-ce qu'on peut décliner un petit peu cet illustre aréopage ?
Évidemment, on est dans la salle des auteurs, hein. cette grande, grande salle. Hein, l'expo, elle fait 700 mètres carrés, ce qui est quand même une belle surface, où là sont présentés donc les auteurs avec des photos qui datent de l'époque. Willem est encore jeune. Et là, chaque, y a pas tout le monde, hélas. Miles Simon, par exemple, a zappé pour des raisons de place et de documents. Et là, on présente vraiment tous nos auteurs, en commençant par les bazookas. Évidemment, les bazookas, ils traînent rue du théâtre. Ils viennent non seulement ils foutent le bordel à Libé, mais ils viennent aussi perturber un petit peu partout. Et évidemment, à Futuropolis, ils ont tout à fait leur place. Et on va faire le 30-40 bazooka, comme moi, je vais travailler dans la maquette de Regard Moderne ou de ce truc-là, où je travaille toujours avec Loulou aujourd'hui. C'est vrai que c'est des potes, hein, c'est des copains. Mais aussi bien Enki ou Edmond Baudouin, qui est un pur produit élevé sous la mer, Edmond Baudouin. Il y a aussi ceux déjà qui sont sur des rails du type Enki, qui vont venir, bien entendu, faire un truc différent à Futuropolis.
Enki Bilal.
Hein. Enki Bilal. Un truc différent pour un traitement particulier où avec Bilal on va faire un portfolio qui s'appelle Le Mur en 82.
J'aimerais qu'on parle de Charlie Schlingo parce que c'est quand même figure futuropolisissime.
Charlie, Charlie c'est le avec les potes Golo et Franck, c'est avec eux qu'on s'arsouille rue Custine derrière la butte. Et là, c'est pareil, c'est devenu une succursale de Futuropolis, la rue Custine, un bistrot qui s'appelle Le Rêve. Et là, on se retrouve au rêve, et puis, puis si on faisait ceci, puis si on faisait cela. Et c'est ça, vraiment, Futuropolis, c'est un truc d'arsouille. Et c'est comme ça que se font les livres les uns après les autres. Tu vois, Rochette, Zwart, qui était là tout à l'heure, Zwart fait ses bouquins à Paris et va aller les traduire ou les dupliquer en Hollande. Mais là, on a des complicités là, un petit peu plus larges sur le plan graphique, hein, avec Joost, qui est plus dans la mise en page ou dans la construction. Et alors là, il est en érection en permanence sur notre table lumineuse. On fait des collages, et on innove aussi dans les techniques de reproduction. Et c'est ça, l'esprit futuro, c'est ça, c'est le truc d'équipe.
Nous étions il y a quelques minutes avec Étienne Robial, avec Futuropolis. On continue, Antoine Guillot, avec Métal Hurlant, ce qui est une certaine manière de continuité et de logique dans le parcours de cette année.
Oui, Métal Hurlant, dont Robial avait dessiné la maquette, hein, et le fameux logo avec l'éclair. Donc on est dans une continuité. Et dans les tout débuts de Métal Hurlant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Richard Corben, on trouve Den. Nous sommes ici avec Stéphane Beaujean dans l'exposition Richard Corben au musée des Beaux-Arts d'Angoulême. Exposition extrêmement fréquentée. Est-ce que c'est une surprise pour vous, Stéphane Beaujean, non seulement que le nom de Corben soit sorti l'an dernier, alors qu'on pourrait se dire que pour les auteurs qui votent, Corben était surtout un auteur des années 70, plus très présent. Heureusement, des éditeurs comme Delirium rappelaient que Corben continuait à œuvrer et qu'il y ait autant de succès pour cet auteur, et Stéphane Beaujean.
Alors, une surprise, oui. Qu'il ait gagné l'année dernière, je m'y attendais un petit peu, puisque à partir du moment où on l'avait remis dans la liste des grands prix potentiels à l'époque où on faisait des pré-listes, il était souvent bien placé et ces dernières années, il ne cessait de monter dans les sondages. Sa victoire m'apparaissait quand même un peu, pas prématurée, mais plus rapide que ce que je pensais. Mais j'étais heureux parce que moi, j'avais prévu mon exposition Richard Corben en 2021 avec un collectionneur français qui a 600 pièces et qui aurait pu m'aider à faire une expo Corben vraiment très riche et très facile. Malheureusement, il a gagné plus vite. Ce collectionneur ne voulait pas libérer ses pièces et il a fallu que je reparte sur un autre projet qui réunit ici 25 collections personnelles, dont des œuvres qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et je suis plutôt content que ce soit un succès, puisque c'est, je crois, le projet le plus compliqué qu'on ait jamais eu à faire dans ce festival.
Et pourquoi compliqué ? Pour récupérer les pièces uniquement, ou parce qu'il y avait aussi tout un travail à faire qui n'est pas habituel dans ce qu'on expose, puisque chez Richard Corben, c'est ce qu'on découvre dans cette exposition, la planche n'est qu'un état préliminaire, on pourrait dire, de son travail, et que tout ce qui va donner la matière imprimée est un travail qui est très difficile à expliquer.
Alors il y avait évidemment ce challenge-là, le challenge du mystère Corben, puisque c'est l'un des rares dessinateurs dont le dessin reste vraiment impossible à décoder tant qu'on n'a pas accès aux originaux. Et ça rend fou les autres dessinateurs. Donc ça, c'était un vrai challenge. En même temps, c'était vraiment le plaisir de pouvoir enfin comprendre les secrets et les recettes, même si avec les originaux, il faut encore quand même beaucoup d'analyse pour tout comprendre. Hier soir encore, j'étais en train d'essayer de comprendre certains procédés de couleur que je ne comprenais pas. Non, c'était surtout un challenge parce que c'est un auteur qui a énormément évolué, qui a fait énormément d'expériences. Et si vous voulez être représentatif de ses différentes facettes, il vous faut prospecter partout. Les collectionneurs ne sont pas des gens faciles, pas forcément très rassurés à l'idée de prêter leurs œuvres. Et puis après, les transports d'art, les douanes, tout ce genre de choses, en moins d'un an, ça relève du challenge, puisque c'est plutôt un travail qu'on fait sur 2 ou 3 ans en général.
Est-ce qu'il y a encore des idées préconçues fausses sur Corben qu'il s'agirait de démentir ? On est ici dans la salle d'Aine, le héros musculeux qui se promène nu dans des univers de fantasy sur des planètes étranges et qui rencontre des monstres et des femmes tout aussi nues et sculpturales que lui. C'est ce qui a fait connaître Corben en France, hein, grâce à Métal Hurlant, on le disait tout à l'heure. Et dans l'esprit des gens, c'est ça. Corben, c'est des grosses baraques qui passent leur temps à se taper dessus et avoir des belles femmes avec forte poitrine en récompense. C'est quand même quelque chose à nuancer quand on se plonge vraiment dans l'œuvre de Corben, Stéphane Beaujean.
Oui, tout à fait. Ça a été Corben, mais ça ne l'est plus. Et si ça l'a été, ce n'est certainement pas pour les raisons auxquelles pensent les personnes qui restent à la surface de son œuvre et qui souvent émettent un jugement après avoir aperçu 1 ou 2 images fortes. D'ailleurs, s'ils étaient vraiment attentifs, ils remarqueraient, parce qu'aucune image de Corben ne se prête vraiment à une lecture érotique, ils auraient pu déjà déceler dans chacune de ces images la volonté de grotesque, qui évidemment révèle une envie de choquer l'ordre bourgeois. Donc les personnes qui généralement ont peur de Corben sont des bourgeois dans l'âme. Ce qui caractérise Corben, c'est ce côté unique qu'il a eu dans les années 70, d'avoir un pied dans la culture dite underground, c'est-à-dire avec des codes qui sont là pour remuer le lecteur, résister à la société, et puis en même temps dans le récit de genre, c'est-à-dire dans quelque chose de très littéral, avec des figures de héros, des aventures et des épopées, et puis des monstres. Donc de créer des épopées, mais je dirais avec un vernis de culture underground, ça rend ces images unique, très complexe à décoder et parfois jugé trop hâtivement.
Alors Stéphane Beaujean, quand on voit ce qui est publié en France de Corben chez Panini et Delirium, 2 noms viennent au premier plan, Edgar Allan Poe et Lovecraft. Et on a l'impression que ce sont des auteurs qui servent son désir et ses ambitions techniques. C'est-à-dire que Poe et Lovecraft, on est dans de fantastique, on est dans une horreur extrêmement matérielle qui convoque le corps, la putréfaction, l'effort, la souffrance, les sueurs, le sang, le sperme, enfin toutes ces choses. Sans parler de Lovecraft, évidemment, avec les divinités de l'abîme. Donc, comme chez Corben, il y a un désir de se confronter vraiment de manière virtuose avec la matière, avec le matériau, au point même que des fois, le personnage disparaît dans sa matière. Il y a une extraordinaire histoire d'un culturiste qui prend une potion magique et qui se noie dans ses muscles, on peut le dire. Est-ce que justement le fantastique et l'horreur qui met le matériau, le matériel humain au premier plan, n'est pas vraiment ce qui était pour lui le but rêvé ?
tout à fait, vous pointez ce qui pour moi reste le trait saillant de toute l'œuvre de Corben, et c'est pour ça qu'on a intitulé cette exposition « Donner corps à l'imaginaire ». Parce que c'est, je crois, la préoccupation principale de Richard Corben, qui se traduit et dans une recherche de forme perpétuelle qui est liée à la technique, comment je donne corps en intégrant les processus technologiques de l'impression, de l'ordinateur, mais aussi du dessin, comment j'intègre l'huile, comment j'intègre les matériaux, car c'est le corps que je veux représenter, que je veux travailler. Et c'est aussi une préoccupation dans les thèmes, puisque Poe et Lovecraft vont l'accompagner toute sa vie, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, et à chaque fois il y revient avec une certaine forme d'insatisfaction puisqu'il n'arrive pas à cerner ou en tout cas à répondre aux images qu'il doit voir ou qu'il doit sentir dans les œuvres de ses auteurs de littérature qui le nourrissent pleinement. La seule chose qui change au fond, et je ne suis pas certain d'avoir raison, mais si je dois analyser quelque chose, c'est qu'aujourd'hui il est un peu plus contestataire avec ses figures littéraires, puisque par exemple quelque chose comme Rat God s'empare du racisme latent, peut-on dire, qui existe chez Lovecraft et qui est un sujet politique. Il y a toujours eu du politique chez Corben, mais bien caché sous le vernis là aussi des muscles et de la transgression. Mais c'est un sujet qu'il n'aurait probablement pas pu aborder avant. À part ça, je dois bien reconnaître que vous avez raison, Lovecraft et Poe sont des imaginaires dans lesquels il se vautre pour essayer de trouver une forme aux images qu'il habite lui-même.
Mais c'est ce qui est très passionnant en voyant ces différentes versions d'histoire de Poe, par exemple, qu'il va réaliser sur les années. Il y en a trois pour le corbeau, et il y en a plusieurs. Alors on les a vus dans ces périodes creepy, eerie, rééditées par Delirium, ou dans l'Antre de l'horreur que vient de sortir Panini. Et dans l'Antre de l'horreur, on a le texte d'origine qui est parfois juste un poème très, très énigmatique, quasi malarméen, dont il va s'emparer pour raconter soit une histoire de la guerre de sécession, soit une histoire contemporaine. C'est-à-dire que c'est vraiment un terreau, un matériau de base à partir duquel Corben rêve, à partir duquel Corben regarde le monde quasiment.
Oui, tout à fait. Alors, elle est un peu particulière cette édition chez Panini, puisque je crois que Corben est quand même un peu déçu par ce travail. Il était avec Richard Margopoulos à l'époque. Ils avaient eu une bonne relation chez Warren dans Eerie et Creepy. Et quand il revenait sur le sujet de nombreuses années plus tard, il s'était dit « je vais y retourner avec mon compagnon d'époque ». Il s'est retrouvé corseté, je crois, dans son dialogue. Et c'est pour ça qu'il est revenu une troisième fois, d'ailleurs. Parce qu'il est là débarrassé de son scénariste. Mais effectivement, il tourne perpétuellement autour de motifs qu'il n'arrive pas à cerner. Ça, c'est une évidence. Il les approche de plein de manières différentes. Il les approche par la sculpture également, on a oublié. Il cherche le vocabulaire de forme qu'il cherche à mettre en place. C'est comme s'il était insaisissable.
Jean-Marc Rochette, on tombe sur vous dans cette exposition. Corben, qu'est-ce que vous faites là?
J'ai été invité pour faire une conférence avec les deux coloristes avec qui je travaille. Et donc, comme j'ai profité de Corben et que je suis le fan en chef, je viens voir cette planche-là. Planche de Rolf, je crois que c'est la bande dessinée qui m'a donné envie de dessiner ça. C'est exceptionnel. Parce qu'il y a un ancrage que j'avais jamais vu, il y a une liberté de ton que j'avais jamais vu, et j'avais lu ça dans l'actuel en 72, je pense. Pour moi, la bande dessinée, c'était pas ça, c'était Astérix, c'était... Et c'était éventuellement Chrome, mais là, il y a un niveau technique que j'avais jamais vu, quoi. C'est de l'underground professionnel, quoi.
Est-ce que vous faites partie de ces auteurs qui ont vu arriver les couleurs de Corben et qui se sont dit, mais bon Dieu, comment est-ce qu'il fait?
Absolument, oui, c'est ça, c'était Kiden. Et j'ai su la solution par mon ami Ferchit Baroucha, avec qui j'avais un atelier, et qui m'a expliqué qu'en fait, c'était avec 4 films. Il travaillait donc avec 4 films différents, noir et blanc, qui superposaient, et donc ça faisait ces espèces de couleurs psychédéliques qu'on n'avait jamais vues, une espèce de pré-3D en fait, extraordinaire. On s'est posé la question, mais d'ailleurs je me la pose encore, j'ai l'explication, mais je ne sais toujours pas comment ça marche.
Est-ce que on peut être inspiré par Corben, ou est-ce que c'est un côté complètement paralysant? C'est-à-dire de dire que c'est une telle perfection technique, une telle inventivité, qu'on ne sait pas comment on pourrait faire après.
Bon, effectivement, si on essaie de boxer dans cette catégorie-là, on va pas y arriver. Donc après, on peut trouver sa trajectoire personnelle, mais c'est une forme d'Everest. Hein, on ne peut pas aller beaucoup plus haut dans cette profession. Hein.
on est devant une peinture de Richard Corben, parce qu'il y a ce travail invisible de la mise en couleur, qu'on ne peut voir que par les films en transparent. Mais là, voilà, on a ces travaux de peinture. En quoi son travail de la peinture se différencie de son travail de mise en couleur de ses dessins? C'est pas exactement la même chose. Et là, on est devant la couverture de l'édition française de Den, Neverwhere.
Tout à fait. Alors en fait, moi j'aime énormément sa peinture, mais je dois reconnaître qu'elle me fascine moins que son noir et blanc. Parce que là où je le trouve totalement expérimental en noir et blanc et perpétuellement dans la recherche de nouvelles formes, de nouvelles solutions, dans la peinture finalement il est très académique, il reprend les grandes techniques de maître, il les essaye toutes une à une, il se fait plaisir, mais il est finalement très sage. Alors évidemment ces images, elles sont les images de Corben, c'est son imaginaire, mais techniquement il est à la fois virtuose, et c'est pour ça que ça tient très très bien et qu'on est très content d'être devant ces huiles colorées incroyables. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a une part de... je dirais d'académisme qu'il est aussi. Hein. C'est quelqu'un qui prend du dessin, qui fait du dessin académique depuis toujours. Il fait du croquis d'après nature et tout ça. Mais qui, moi, me fascine moins, je dois reconnaître. Même si cette peinture-là, c'est quand même une de ses Mona Lisa. Elle est très belle.
Le Corben le plus connu, c'est celui de Den, celui des années 70 et des grandes peintures colorées. Il y a une évolution que je trouve assez fascinante dans le style de Corben, dans son dessin. Et le Corben tardif, le Corben actuel, moi, me plaît énormément à cause du côté presque terreux de ces personnages, qu'on a l'impression qu'il les a modelés dans l'argile. On a vu ces sculptures tout à l'heure avec lesquelles il va essayer de tester la lumière, comment ça se reflète dessus. Et alors, le Corben qui n'est pas très bien vu par les aficionados, c'est celui qui, après la faillite de sa maison d'édition Fantagore, va bien devoir manger, et pour manger, il va dessiner du super-héros. Et il y a quelque chose de très fascinant, moi je trouve, dans sa manière de s'emparer du super-héros, que ce soit la musculature, qui n'a plus rien à la musculature classique d'un Den, qui va devenir boursouflé, vous parliez, François, de ce corps qui menace de dévorer le héros dans cette nouvelle, mais c'est ce qui va l'intéresser sans doute chez Hulk, c'est ce qui va l'intéresser chez Luke Cage, c'est d'aller au-delà même de l'expressivité du corps, et en même temps d'avoir un dessin qui devient presque une écriture, c'est-à-dire qui devient de plus en plus rapide, de plus en plus lisible.
Oui, tout à fait. Moi, j'identifie ce changement un tout petit peu avant. On n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'on n'avait pas les planches et que c'est pas si fascinant que ça à observer une fois que c'est retiré des livres. C'est Den Z, en fait, où pour la première fois, son personnage de Den commence à avoir des corps boursouflés, mais réellement boursouflés au point de devenir monstrueux. Et là, s'opère une transition chez lui dans le rapport au corps, où effectivement il va travailler en réhaut de points et en masse de noir. Son dessin devient un trait écriture, c'est exactement ça. Et là le corps devient un objet de fascination, mais presque gênant. Et d'ailleurs, à partir de là, la dimension monstrueuse de ces personnages va être réellement incarnée de manière différente, plus violente. Vous allez voir, même chez ces Bigfoot, chez ces Congo Bill, des scènes de violence qui reviennent, qui sont toujours les mêmes. Le héros assis sur une victime, en train de lui arracher quelque chose. Hulk est traité comme une masse de violence incontrôlable. Et il cherche, comme ça, dans son rapport au corps, ce qui est incontrôlable, ce qui relève de la monstruosité et de la violence qu'on n'arrive plus à canaliser ou à contenir dans ce corps. Et il va l'appliquer à des figures qui sont autant positives que monstrueuses.
C'est pas pour rien qu'il choisit ces super-héros-là. C'est pas pour rien qu'il prendra Batman aussi. Sa version de Batman est extrêmement glaçante. On a l'impression de voir un technicien de la violence qui sait asséner le coup d'art martial qu'il faut. Parce que Corben est un grand passionné des arts martiaux, mais qui a presque un sourire sadique au moment où il envoie une tatane dans la figure du pauvre délinquant.
Ouais, c'est le vrai Corben, c'est-à-dire que Batman est traité en blanc déjà, graphiquement, pour bien montrer qu'on est là pour pervertir les choses. Ensuite, effectivement, il s'attaque à des délinquants qui latent de manière vraiment sans retenue et avec un plaisir affiché et une virtuosité qui lui donne l'ascendant sur ce groupe de pauvres types paumés qui ont essayé de l'agresser. Donc, oui, chez Corben, l'ambiguïté qu'on peut donner parfois à certaines figures, chez Miller ou chez Moore, lui, il l'incarne sans sophistication politique, de manière purement graphique et gestuelle, en fait.
Justement, le thème qui apparaît central avec celui de la fascination pour la matière, le matériau, c'est le thème de la prédation. C'est-à-dire qu'en permanence, on est confronté à des personnages proies et des personnages chasseurs. Alors ça peut prendre toutes les formes, économiques, sociales, psychologiques, et puis j'allais dire rituels aussi, rituels économiques, rituels de la chasse et rituels du sacrifice. Donc est-ce qu'il n'y a pas là aussi une métaphore, je dirais, de son travail de dessinateur et de c'est l'idée que le chasseur se rue sur sa proie comme Corben se rue sur la matière pour la modeler et pour essayer d'en sortir une forme. C'est comme s'il n'y a pas une espèce de violence naturelle à sa tentative artistique qui se retrouverait dans ces histoires.
Pour moi, le rapport au dessin chez Corben, c'est vraiment... je ne sais pas si c'est... J'arrive pas à voir de la prédation chez lui. J'arrive à voir... ce que je vois, c'est plus une obsession, une recherche, mais qui relève pas nécessairement de l'appétit ou de... ou même de la violence. J'y vois une sorte de... Moi, j'y vois un plaisir enfantin, en fait. Qui est peut-être... mais c'est là, on est dans l'interprétation totalement subjective. Hein. Mais j'y vois une forme de naïveté. C'est des jouets avec lesquels il s'amuse. Il n'y a aucune de ces figures qui m'est jamais apparue réellement incarnée. Jamais réellement érotique, jamais réellement dangereuse. Elles sont... elles sont en revanche saisissantes de volonté de donner vie, mais il y a toujours quelque chose dans sa volonté de grossir le trait qui est là pour rappeler qu'il ira jamais jusqu'au bout et qu'il y croira jamais totalement.
Par rapport à quelqu'un comme Frazetta, par exemple, avec qui il a en commun des univers, l'imaginaire de la fantasy, Robert Howard, les monstres de l'abîme aussi. Enfin, je veux dire, quelle différence feriez-vous entre Corben et Frazetta ?
Je crois que Frazetta est beaucoup plus premier degré et littéral. Chez Frazetta, il n'y a absolument aucune sophistication derrière les images. Tout est dans le geste et dans la performance. C'est quelqu'un, alors lui, qui n'a pas de cynisme. C'est quelqu'un qui incarne, lui, je pense, qui incarne véritablement tous les objets qu'il dessine. Et il essaye d'aller au plus loin. La différence entre le Conan de Corben et le Conan de Frazetta... Et tiens, je crois à la volonté chez Corben de jouer avec des codes et de les pervertir, et à Frazetta, au contraire, de les habiter et de les vivre pleinement.
Cette réflexion critique là, avec laquelle vous nous apportez des réponses, elle est quand même à la base de cette exposition. Et il me semble qu'Angoulême est le grand lieu de réflexion sur comment exposer la bande dessinée et en faire autre chose qu'un accrochage de planches que les spectateurs, les visiteurs vont lire, mais qu'ils liraient beaucoup mieux dans leur fauteuil si c'était dans un livre. Il y a un travail de précision, de l'analyse critique et surtout de la grande question que se sont posées tous les lecteurs, surtout professionnels de Corben, c'est comment c'est fait. C'est comment est-ce qu'il va faire ses couleurs, mais non seulement ça, comment il va aboutir à ce dessin. Et chacune de ces images accrochées au mur et accompagnées d'un cartel extrêmement précis dans l'analyse, pourquoi est-ce que vous avez voulu que cette exposition soit à ce point scientifique ? Est-ce que c'est parce que Corben était considéré comme un aimable dessinateur pulp qu'il fallait pas prendre plus au sérieux que ça, alors qu'au contraire, il faut montrer ça ? Ou est-ce que vous voulez apporter votre pierre sur la réflexion de ce que doit être, ce que peut-être surtout, une exposition de bande dessinée ?
Moi, j'ai pris la direction artistique, c'était une de mes volontés, parce que c'est ce qui m'intéresse. C'est vraiment la seule chose, en fait, qui m'intéresse vraiment. Travaillant dans un événement grand public, il m'a fallu réfléchir à des outils de médiation qui ne laissaient pas le profane à la porte. Et j'ai commencé à créer des expositions qui sont contraires à toutes les règles d'exposition, c'est-à-dire avec énormément de textes. Pourquoi ? Parce que les textes sont hiérarchisés pour que... chaque profil de visiteur puisse s'emparer d'un niveau de texte. Si vous n'y connaissez rien, vous lisez que les très grands panneaux écrits très gros et qui sont pas très longs. Ça vous permet d'avoir les traits saillants, la base nécessaire pour comprendre ce que vous allez observer. Si vous êtes un peu curieux, vous lisez les textes de deuxième niveau et là, ça vous permet de rentrer un peu plus dans la matière et d'y passer un peu plus de temps. Et si vous êtes vraiment un fan, alors là, faut vous approcher des œuvres et faut lire les petits cartels qui sont souvent écrits plus petits, qui vous demandent de vous investir beaucoup plus longuement dans la déambulation. Sur Corben, j'ai pas forcément utilisé ce dispositif complet parce que j'avais pas les ressources, que le lieu s'y prêtait pas. Et sur Corben, le cas particulier, c'est qu'effectivement, c'est un cas particulier qui demandait de répondre aux demandes qui étaient exprimées depuis très longtemps par la profession, puisque cet événement se destine au grand public, mais se destine aussi aux auteurs. Et les livres que nous faisons, les expos que nous faisons, elles se destinent aussi à eux. Il faut que ça soit vraiment un lieu duquel ils repartent enrichis. Donc cet exercice, ce grand écart entre ne pas rejeter celui qui n'a jamais lu de bande dessinée et éclairer ou en tout cas intéresser celui qui en lit beaucoup trop, c'est vraiment le challenge auquel on se confronte.
Voilà, on termine cette exposition, évidemment, avec Christophe Beer.
Écrire sauve-t-il des vies ? Écrire prolonge-t-il la mémoire des disparus ou bien faut-il seulement s'empresser de le faire croire aux vivants que nos livres absorbent ? Nicolas Le Golvan se pose la question dans son dernier ouvrage, tant le sujet de son enquête s'esquive à l'envi, Pierre Rep, bégayer, exister, écrire. Cet artiste connut son heure de gloire télévisuelle, filiforme silhouette surgissant sur les plateaux de divertissement, ébahi, presque craintif. Mais dès le premier mot écorché, la machine comique s'emballait, irrésistible, les phrases s'emberlificotant. Contre-pétrie grivoise, non-sens et contresens, accélération du rythme, hésitation soucieuse, monosyllabe suspendue, silence, lapsus encombrant, irruption du synonyme providentiel, mimique contrite d'excuses pour mieux sombrer dans la catastrophe du langage. Applaudissements. Pierre Rep fut l'orfèvre en dérapage, bafouillage et voltige vocal. Peu et mal sollicité au cinéma, il contamina ses partenaires dans une séquence hilarante de « Je sais rien, mais je dirai tout » de Pierre Richard. Contacté par Le Golvan, l'acteur-réalisateur a peu à raconter sur Rep. La collecte des témoignages est ardue. Comme les mots « Rep » se dérobent dans les souvenirs. Que savoir de plus sur Pierre Bouclet dit « Rep » né en 1909 à Saint-Paul-sur-Ternoise, Pas-de-Calais, décédé le 1er novembre 1986 au Plessis-Trévise, humoriste et acteur à partir des années 30. L'auteur se cramponne aux rares documents chinés sur le net, en vient à convoquer les grands bègues de l'histoire. Rien n'y fait. Un producteur se souvient que Rep était toujours accompagné de sa femme. C'est elle qui dirigeait tout. Toute une vie en scène, pour y perdre la maîtrise de la parole, élever la défaite en art virtuose. D'après Smaïn, qui croisa Rep dans son dernier film, Le calamiteux téléphone sonne toujours deux fois, on peut tenir une carrière de musical sur un sketch très efficace, rentable. On devient l'expert d'un numéro immuable. Ni biographie, ni essai, ce livre est pour l'auteur une confession. Savoir écrire, c'est accepter qu'un texte se brise dès son terme.
Je ne voudrais pas laisser passer les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes de Voulénan, les fêtes de les fêtes de la Voulénané, de la Vénoulel, de l'an neuf, sans vous présenter, si vous le permettez, mes vieux, les plus saints, les plus vieux, les souhaits, les Saint-Sulpice. Je n'irai pas par quatre machins, neuf chemins, en ne répondant que par un seul cri, Rina Ketty. René Coty. Et c'est pourquoi, tant que ma seule arme sera ma langue, je n'hésiterai pas pour conclure à vous rétéplure, à vous répéter de mon air confraternel. Que seule cette éternelle et très jolie trilogie, cette très jolie rhétorique, très très si, rétronelle trinité, pourra seule nous sortir de la merde destin. Qui fut le nôtre, il faut bien le dire, toute la dernière, toute l'année derrière, l'arrêt derrière, en 54.
Ainsi s'achève ce mauvais genre consacré au festival 2019 de la bande dessinée d'Angoulême. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Serge Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnet, Antoine Guillot, que je remercie triplement. Christophe Beer et moi, nous vous remercions d'avoir suivi l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission polar avec Leonardo Padura et quelques chroniques.
Thank you.